La loba, la femme louve. Il était une vieille femme qui vit dans un endroit caché. Un endroit connu de tous, mais pourtant que bien peu ont vu. Oui, comme dans les contes de fées de l'Europe de l'Est, elle semble attendre. Oui, elle semble attendre que les personnes perdues, les personnes errantes, en quête de quelque chose viennent à elle. Elle est souvent velue, toujours grosse, et elle fuit la compagnie des autres. Elle croasse, elle caquette, elle s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Certains diront qu'elle vit sur les pentes de granit du territoire des Indiens Tarahumara. On dit aussi qu'elle est enterrée en dehors de Phoenix, près d'un puits. On l'aurait vu descendre vers le sud, vers Monte Alban, dans une voiture complètement délabrée, avec une vitre arrière rabattue. Elle se tiendrait aussi sur la grande route près d'El Paso. Elle accompagnerait les camionneurs qui foncent vers Morelia au Mexique. On l'aurait aussi aperçue sur la route du marché, au-dessus de Oaxaca, avec sur le dos des fagots aux formes curieuses. Elle se donne différents noms. La loba, la huesera, la femme aux os, la trapera, la ramasseuse, la loba, la louve, la femme louve. Sachez que la femme louve a pour unique tâche de ramasser les os. Elle a aussi pour réputation de ramasser, de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour tout le monde. Sa caverne est pleine d'os, de toutes sortes, appartenant aux créatures du désert, des cerfs, des serpents à sonnette, des corbeaux, mais on l'a dit surtout grande spécialiste des loups. Elle arpente les montagnes, le lit asséché des rivières, et partout elle cherche, elle cherche, elle cherche, elle cherche les os. Les os de loup spécialement. Lorsqu'elle parvient à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est à sa place et que le beau squelette blanc de l'animal est au sol devant elle, alors elle s'assoit près du feu, elle réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle a trouvé, elle se lève et c'est les mains tendues au-dessus de la créature qu'elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La loba, elle chante encore et la bête s'incarne un peu plus et sa queue puissante recourbée se dresse. La loba chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble, et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux. Elle bondit sur ses pattes et elle détale dans le canyon. Quelque part durant sa course, est-ce le fait de sa vitesse, est-ce parce qu'elle traverse une rivière à la nage, ou qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court. Qui court en riant vers l'horizon. C'est pourquoi on raconte que si vous êtes perdu dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu perdu, un petit peu fatigué, peut-être que vous aurez la chance que la loba vous prenne en sympathie et vous montre quelque chose qui appartient à votre âme. Alors en attendant, laissez-moi vous conter cette histoire de la femme louve. Un conte catalan qui se passe quelque part en Cerdagne, non loin du lac de Sayagus, entre Andorre, Catalogne et France, non loin de Font-Romeu aujourd'hui pour vous situer. Oui. Il était une fois, en des temps très anciens, un riche métayer. Il habitait là, en Cerdagne. Il régnait en maître absolu sur son domaine et sur ses serviteurs. C'était un fermier riche, oui, très riche, mais malfaisant, mauvais avec ses serviteurs. Il les terrorisait, il les maltraitait. Tous les jours, il parcourait son domaine à cheval, insultant, frappant tous ceux qui avaient le malheur d'être à son service. Pourtant, ses serviteurs travaillaient, ils étaient zélés, mais le maître trouvait toujours à redire, et il cravachait sans remords les bergers, les vachers, les muletiers. Oui, chaque jour, par tous les temps, il s'en allait un bâton à la main, toujours prêt à frapper les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants qui travaillaient sur sa terre. Tous le craignaient, le tremblaient quand il arrivait, tous détournaient le regard. Mais le redoutable maître trouvait toujours un motif, vous dis-je, toujours un motif pour les battre. Un jour, un vieux berger qui travaillait pour lui manqua à son devoir. Et oui, il avait perdu une bête. C'était la première fois que dans sa longue vie de berger, c'était la première fois qu'une brebis lui échappait. Pourtant, il l'avait cherchée partout, partout où il pouvait. Le long des ruisseaux, dans les bois, dans les prés. Il l'avait appelée, sifflée, il l'avait même bêlée comme elle pour la retrouver. Mais la brebis n'était pas revenue. Alors le berger était revenu au domaine. Et quand le troupeau avait franchi le portail du domaine, le maître était là. Il l'attendait déjà, furieux, car le berger était en retard. Il demande au vieil homme ce qui se passe. Celui-ci est fatigué. Et il répond sans mentir. Une brebis a disparu. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, maître. Voilà pourquoi je suis en retard. Et tu penses que je vais te croire, vieux singe ? Déjà, il levait son bâton sur lui. Il était prêt à le rouer de coups. Si tu l'avais cherché, tu l'aurais trouvé. Et là, le maître l'a frappé avec une telle violence qu'il l'a laissé par terre. Ouais. Il lui a donné tant de coups, que le vieux berger s'est retrouvé là à terre comme un vieux chiffon abandonné. Le maître s'est éloigné, il a exigé encore du vieil homme qu'il reprenne ses recherches sans attendre. Et c'est le corps cassé, fourbu, pourtant vivant, que le berger est reparti à la recherche de sa brebis. Toute la nuit, il l'a cherché, mais sans succès. La brebis était-elle perdue à tout jamais? Lorsque l'aube s'est levée, le vieillard, épuisé, découragé, s'est résigné à redescendre dans la vallée. C'est alors que, au moment où il traversait le bois, un bois touffu, il entend un bruit d'os arraché, déchiqueté, des bruits de crocs. Il lève à son tour son bâton, s'approche de l'endroit où venaient les bruits suspects, et là, il voit les restes de sa brebis. Et un loup. Il se précipite sur la bête, il veut la frapper, l'assommer, la tuer. Mais la bête hurle. « Ne me tue pas, berger, ne me tue pas !»« je suis loup pour cette brebis comme ton maître est loup pour toi. Ne me tue pas !»« Si tu me tuais, tu deviendrais à ton tour loup pour moi. » Écoute, laisse-moi vivre, et en échange, tu auras le moyen de faire justice, de venger tout ce mal que t'a fait ton maître. Prends 3 poils de ma peau, de ma tête, de mon ventre et de ma queue. Place-les tous les 3 sur ton corps, l'un sur ta tête, l'autre sur ton ventre, enfin le dernier sur ta poitrine, et dis ces paroles. Loup, loup, mes aïeux, venez à mon aide, que je devienne loup, avec la force d'un loup, Loup, tu deviendras. » Pour reprendre forme humaine, arrache alors les poils que tu auras placés. Seul le feu pourrait anéantir ce pouvoir. Le berger prend alors les trois poils du loup et il disparaît derrière le fourré. Le berger reste un moment sans bouger. Il croit avoir rêvé. Pourtant, il voit bien à ses pieds, non, les restes de sa brebis perdue, déchiquetée. Et dans ses mains, il tenait les trois poils du loup. Il rassemble alors dans son sac les morceaux de la bête. Oui, les quelques os qu'il a pu récupérer, puis il redescend vers le domaine. À l'entrée, le maître était là qui l'attendait. Quand le métayer, le maître, l'a vu arriver et a vu ce qui restait de son mouton, il a été mais saisi d'une colère, et sans même écouter les pauvres explications du vieil homme, il s'est mis à le frapper, hurlant sa haine, sa rage, sa fureur. Il l'a frappé tellement fort qu'il l'a laissé comme pour mort. Personne n'est venu au secours du vieux berger. Son corps était roué de coups. Quand le maître était parti, on l'a alors transporté, le berger, oui, on l'a transporté chez lui. On l'a allongé sur son lit et, sans bien faire quelque chose de plus, au moins, on s'est dit qu'il pourrait ici mourir dignement. Le vieux berger avait pour toute famille une fille. Et là, dans son dernier souffle de vie, le pauvre vieux lui a alors confié le secret du loup. Et il a remis à sa fille les trois poils, lui transmettant les paroles magiques. Et demandant à sa fille, la priant de venger sa mort jusqu'à ce que le maître comprenne sa folie meurtrière. Sa fille avait écouté, sa fille avait promis. Alors, à ce moment-là, le vieil homme a pu se retirer et s'endormir en paix. La jeune fille a enterré dignement son vieux père. Et le soir même, dans la chaumière, elle s'est déshabillée. Elle a placé les trois poils, l'un sur sa tête, l'autre sur son ventre et l'autre sur sa poitrine. Et elle a dit en tremblant, le cœur battant, les paroles magiques. « Loup, loup, mes aïeux, venez à mon aide, que je devienne loup avec la force d'un loup. » Et louve, elle est devenue. Alors elle s'est sentie emportée par une vague de terreur inconnue pour elle jusque-là. Son corps s'est couvert de poils de loup épais, ses dents se sont allongées et elle en a hurlé de douleur. Et elle a reconnu elle-même dans ce cri celui du loup. Elle en avait même peur d'elle-même. Elle sauta sur ses pieds et là une rage aveugle l'a animée. Une ivresse, une envie de sang l'a emportée. Et d'un bond, elle est sortie et elle a couru vers la bergerie. Cette nuit-là, c'est un mouton qu'elle a égorgé. Et au tout premier chant du coq, elle est rentrée. Vite, elle s'est dépêchée. Elle a enlevé les trois poils qu'elle avait placés. Et elle a retrouvé son corps de jeune fille. Et à même le sol, en terre, devant le feu, elle s'est allongée. Et aussitôt, elle s'est endormie, apaisée. Dès lors, chaque soir, quand la nuit venait, commençait pour elle une vie curieuse, une vie hors du commun. Chaque nuit, elle se transformait en louve et elle s'en allait. Oui, elle se retrouvait nourrie d'instincts de fauve, d'instincts de bête. Et là, oui, elle mettait tout en œuvre tout en œuvre pour décimer le bétail et pour déjouer les nombreux obstacles ou les pièges que le métayer, le chef du domaine, essayait de lui présenter et d'installer. Et puis le temps a passé. La louve a multiplié ses actions sauvages sans pouvoir jamais apaiser le feu, la vengeance qui brûlait en elle. En quelques semaines, le maître du domaine a connu à son tour l'épouvantable terreur. Ses brebis étaient toutes enlevées les unes après les autres, toutes mises en pièces. Ses taureaux, ses veaux dans les étables, tous étaient tués par le loup. Alors, le maître du domaine, le métayer, a fait placer ses guetteurs armés partout sur ses terres. Mais ses soins restaient vains. La bête connaissait depuis très longtemps les nombreux passages. Depuis longtemps, elle savait par où elle pouvait passer, des passages oubliés qu'elle empruntait, des brèches dans les murs, des portails oubliés, des vieux égouts. La louve, la loba, ne s'attaquait qu'au bétail du maître, tandis qu'il respectait celui des petites gens qui vivaient là. Oui, elle ne touchait jamais au troupeau de ces gens qui vivaient sur le domaine, qui, eux, vivaient tous dans des conditions misérables, humiliés par le maître. C'est alors que, se sentant affaibli pour la première fois, le maître a demandé de l'aide. Il a d'abord demandé de l'aide à son fils. Son fils était un jeune homme bien différent de son père. Il était honnête, courageux, le regard franc et d'humeur plutôt joyeuse. Il vivait en ville et à la fin de l'été, sur la demande de son père, il est venu s'installer au domaine. En très peu de temps, il a su gagner la confiance de tous. Les domestiques, les ouvriers, les bergers, les fermiers ont tous répondu à sa demande. Et c'est ensemble qu'ils ont mis au point un plan pour chasser l'animal, pour chasser la louve, la loba. À compter de ce jour, la tâche de la louve est devenue bien difficile, bien dangereuse. Plus d'une fois, elle a senti siffler à ses oreilles des balles perdues. Et plus d'une fois, elle a cru qu'elle était vaincue. Et puis, dans un nouvel élan, déterminée, oui, déterminée, elle est sortie dehors pour chasser aussi, même dans la journée. Un matin d'hiver où il faisait froid, la neige était tombée, la jeune louve a vu, isolée là dans un pré, une jument. La louve s'y est risquée, prudemment. L'alerte a été donnée. Et le jeune homme, le fils du prince, du chef du domaine, est arrivé. Il a visé, il a ajusté son tir et il a tiré sur la louve. Il l'a atteint, l'a blessé légèrement, mais suffisamment pour qu'elle laisse de fines gouttelettes de sang sur la neige derrière elle. Alors le jeune homme l'a suivi. Ainsi, il se retrouvait au bord du ruisseau. Une haie y avait poussé, il a franchi la haie et derrière il a découvert une pauvre chaumière qu'il voyait pour la première fois. Étonné, curieux, il s'est approché de la chaumière, il a poussé la porte restée entrouverte et là, il s'est arrêté. Il s'est trouvé devant une telle beauté. Oui, à même le sol, une toute jeune fille dormait, allongée, nue, éclatante de jeunesse et de beauté. Un peu de sang brillait à sa cheville, mais c'est à peine s'il l'a vue, tant il était surpris, emporté par cette vision de beauté. À ce moment-là, son corps s'est recouvert Oui, il s'est retrouvé parcouru de frissons, brûlé, brûlé lui-même par le feu du désir. Il fallait à tout prix qu'il possède cette femme. Alors il est resté pendant des heures à la contempler, veillant sur elle. Quand enfin elle s'est réveillée, il l'aimait, il savait, il l'aimait. Le jeune homme l'aimait d'un amour partagé, car la jeune fille, en le voyant, avait succombé à son tour. C'est alors qu'a commencé pour eux un temps béni des dieux, un temps où chaque heure passée ensemble était une seconde, une minute, des heures de fête et de bonheur. Ils en ont oublié le monde, devoirs, promesses. Oui, ils étaient assoiffés d'amour. De longues semaines, ils ont vécu dans la petite chaumière, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Ils ont connu les saveurs du plaisir, de l'amour, le miel de la vie. Un soir où son amant dormait avec elle, la jeune femme s'est souvenue de sa promesse qu'elle avait faite à son père mourant. Elle avait eu honte d'avoir délaissé sa parole pour son amant, et son cœur s'est serré d'une infinie tristesse. Oui, l'idée de tourner sa vengeance contre l'homme qui dormait dans son lit a traversé un court instant son esprit. Oui, elle s'est blottie contre le corps de son amant, comme pour s'éloigner, comme pour oublier cette sombre pensée d'avoir peut-être à le tuer. Mais contre le remords, elle n'a pas pu lutter. Elle s'est levée rapidement et là, elle a attrapé les trois poils du loup. Elle est sortie nue dans le froid glacial de la nuit et elle les a posés sur elle, sur sa tête, sur son ventre, sur sa poitrine. Peu de temps après, le jeune homme s'est réveillé. Il a appelé la jeune fille, son amante. Et comme autour de lui, il n'y avait que le silence, fatigué, il s'est rendormi. Et au petit matin, quand il a ouvert les yeux, la jeune femme était là. Elle dormait, sereine, confiante, amoureuse à ses côtés. Ce jour-là, quand le jeune homme est revenu au domaine, il a appris qu'une bête avait encore été tuée et que la louve, la loba, avait encore sévi sans que personne ne l'entende ni ne la voie. Alors, il a fait doubler le nombre de guetteurs sur le domaine, mais ses soins sont restés sans résultat. La louve était revenue. La louve attaquait toutes les nuits le bétail. Le jeune homme vivait au paradis avec cette femme. Oui, certes, il savait qu'il fallait surveiller le mât, mais très vite il rejoignait au plus vite sa bien-aimée. Et la jeune femme faisait de même. Elle goûtait au bonheur d'être avec son amant. Et tout en répondant aux exigences imposées par la promesse qu'elle avait faite à son père sur son lit de mort, mais l'amour les liait les deux amants, et le devoir les éloignait. Bientôt, le jeune homme a compris que les tueries qui étaient revenues, causées par le passage de la louve et dont il était le témoin, avaient lieu pendant ses absences. Oui, pendant ses absences à lui, à savoir son sommeil, mais surtout pendant les absences la nuit de sa maîtresse. Il n'avait pas encore bien compris la relation entre la femme qu'il aimait et le carnage dans les étables. Pourtant, il sentait bien que quelque chose de bizarre se passait et que quelque chose hors du commun les unissait, mais à la fois les éloignait l'un de l'autre. Alors, il a voulu connaître son passé. Mais elle refusait de lui dire quoi que ce soit. Alors, il a mené son enquête auprès des villageois, qui savaient très peu de choses sur la jeune femme, sinon que son père, le vieux berger, était mort. Qu'il était mort sous les coups redoutables portés par son père, le maître du domaine, qu'il avait battu à mort. Le jeune homme en a été touché, mais il commença à douter, être pris du désir, oui, il voulait en finir, mettre un terme à cette étrange relation. Ah, il se sentait comme pris, envoûté dans un sortilège. Il s'est éloigné pendant des jours, et puis là, on l'a vu parcourir les vignes, les bois, armé d'un fusil, traquant le danger, mais comme si à son tour, lui-même était traqué comme un animal, fuyant le danger. Curieux. Pourtant, sa décision était prise. Il lui fallait rompre la relation avec sa bien-aimée. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui a annoncé qu'elle attendait un enfant de lui. Alors là, tout s'est chamboulé dans sa tête, tout s'est déréglé, tout s'est brisé, leur amour devenait impossible. Ils se sont séparés, et là, le jeune homme a passé son temps à surveiller de près le domaine et la jeune femme qui, elle, la nuit, redoublait ses attaques. Une nuit, alors qu'elle s'était faite louve, comme toujours, elle s'est glissée par une trappe dans le grand parc aux brebis. L'alerte a été donnée et le jeune homme est arrivé. Pour la première fois, l'homme et la loba s'étaient retrouvés face à face pour un combat mortel. Mais là, dans la puanteur du soin, dans la nuit qui les entourait, ils sont restés là tous les deux, un moment, sans bouger, se regardant fixement, les yeux dans les yeux. Et soudain, d'un bond, la poursuite a commencé. Sans arrêt, ils se sont battus. La louve savait esquiver les coups portés. Elle savait bondir d'une mangeoire à une autre, sans cri, sans essoufflement. Elle aurait pu attaquer le jeune homme de front, mais elle n'en a rien fait. Elle se contentait à chaque arrêt de le fixer de son regard puissant, insistant, brûlant d'amour. Mais lui, poignard en main, la poursuivait, obstiné, sans jamais arriver à l'atteindre. Car lui-même était gêné dans ses assauts par les mouvements incessants des brebis qui étaient affolées et qui criaient leur frayeur dans l'étable. À un moment, une mangeoire les séparait. Tête droite, ventre lourd d'un petit à naître, la louve s'est arrêtée, immobile, tel un rocher qui ne pouvait pas bouger. Alors lui s'est approché, doucement, à pas compter. Il haletait, il était ému. Il était bientôt prêt à se jeter sur la louve, quand tout à coup la porte du parc s'est ouverte. Des hommes armés de fourches se sont engouffrés, et là, une intense frayeur s'est emparée du bétail. Et là, toutes les brebis, les moutons se sont mis à courir en tous sens dans le parc. Et la louve en a profité de ce grand désordre pour s'échapper par le passage ouvert, par le passage qui lui était offert. En deux bonds, elle était dehors. Mais le jeune homme, rapide, courageux, léger, ah, lui, il a eu le temps de lui donner un grand coup, un coup de poignard qui l'a blessé. Et là, il s'est mis à suivre les traces de son sang laissé sur la terre par une bête touchée. C'est ainsi que, suivant les traces de sang, il est arrivé au bord d'un ruisseau, au bord d'une haie qui avait poussé, il l'a franchie et derrière, il a découvert une pauvre chaumière qu'il connaissait bien. Ah, il était chaviré, oui, tout retourné, tout tourneboulé. Il a poussé la porte, et là, il a vu comme elle lui était apparue la première fois, cette jeune fille splendide, endormie, nue devant le feu, le ventre déjà lourd d'un enfant à naître. Elle était belle, offerte, abandonnée, épanouie, le ventre rond de cette vie qui se faisait sans bruit, qui dormait tranquille en elle. Le jeune homme ému est resté là, sans bouger. Il ne pouvait que la contempler. Cette femme, son secret, le touchait en plein cœur. C'est alors qu'il a vu les quelques gouttes de sang sur sa cheville. Il s'est approché d'elle, il a léché, embrassé, baisé les gouttelettes de sang et il en a tout oublié. Seul son amour comptait. Alors il lui a demandé de devenir son épouse. Ses paroles, quand elle les a entendues à son réveil, oh, c'était doux, c'était bon, comme le bon miel, mais la raison l'emportait. Oui, elle lui dit, ton père ne voudrait pas de cette alliance. Alors il s'en aimait davantage pour retenir un bonheur qu'il sentait pourtant encore une fois pouvoir leur échapper. Ce matin-là, le jeune homme s'est décidé. Il voulait lever le voile du mystère, libérer son esprit d'un doute, d'un soupçon. Il a fait placer des hommes sans armes partout dans le domaine, leur rappelant de ne faire aucun mal à la bête, à la loba, seulement juste la contraindre de l'attraper, de l'emprisonner. Quand tout a été prêt, il a dit à sa bien-aimée qu'il devait s'absenter. Flairant la ruse, cette même nuit, vers les étables, elle a couru, elle est entrée, et très vite autour d'elle, un cercle d'hommes s'est fait et s'est refermé. Et bientôt, le maître du mât, alerté par les cris, est arrivé. « Ne pas tuer la bête, ne pas tuer la bête !» Il n'en avait que faire. Et s'est armé d'un pieu vers la louve qu'il s'est avancé. Mais au même instant, dans la chaumière, l'amoureux se réveillait en sursaut, en nage. Il a vu la couche vide près de lui. Il a pressenti un danger. Alors rapidement, il s'est levé. Il a couru vers le mât et de loin, on l'entendait crier « Ne tuez pas, ne tuez pas la louve, ne la touchez pas !» Quand le jeune homme est arrivé enfin, là, dans l'étable, quand il a vu le cercle formé par les hommes et son père qui, en dépit de ses cris, de ses suppliques, avait plongé son pieu dans les flancs de la bête. Pris de folie, de douleur, le jeune homme a retiré du ventre blessé le pieu acéré. Il l'a brandi contre son père et l'a pris d'effroi. Il s'est figé. Alors on a vu le jeune homme enlacer la louve. On l'a entendu appeler sa bien-aimée, sa femme. Et tous l'ont vu pleurer, pleurer sur le corps de la louve, sur sa blessure. Bientôt les hommes se sont écartés, le laissant emporter avec lui la louve blessée. Dans la chaumière, il l'a emmenée, il a imploré mille fois son pardon. Près du feu, il l'a allongé. Il voyait son ventre ouvert, il a prié, il a pleuré. Quand elle a ouvert les yeux, elle lui a dit « Arrache, arrache-moi trois poils de ma peau, l'un de ma tête, l'un de mon ventre, l'un de ma queue. Jette-les dans le feu et fais vite, je t'en prie. » Alors le jeune homme a fait ce qu'elle avait dit. Et là est apparu le corps resplendissant de la jeune fille du berger. Sur son ventre, le sang brillait, et entre ses jambes lui venait un nouveau-né. Oui, rose, rose comme elle, souriant comme le vieux berger. Et là, père et mère, ils se sont émus. Les amoureux ont goûté ce moment précieux, mystérieux. Oh! Se demandant s'il n'était pas un moment de rêve, un moment de folie, un moment de rêves insensés. Oh oui, là, les amoureux l'ont vécu ce moment avec force, avec joie. Et c'est ainsi qu'ils ont vécu heureux. Quant au père, le maître du domaine, il a reconnu sa folie meurtrière. La fille du berger lui a pardonné, il s'est apaisé, et le rire de l'enfant effaçait les souffrances, effaçait les rancœurs dans tous les cœurs. Et depuis ce jour-là, aucun serviteur n'a connu l'offense ou le mépris. Oui, tous ont pardonné au maître, à la louve, à la loba. À demain.